Bonjour à tous et à toutes, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Colline, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, à Corbière-en-Provence, les terres de Gym ont connu un beau succès avec en préambule la visite d'Emmanuel Macron, porteur de bonnes nouvelles pour les agriculteurs. Reportage et réactions dans ce magazine. L'association marseillaise En Chantier œuvre pour une alimentation de qualité, notre reportage dans un instant. Initiative originale à Manosque, la ville ouvre un centre de vaccination éphémère à deux pas du marché du samedi matin. Une idée originale à Malfougas dans le 04 pour les journées du patrimoine. Le présent rejoint le passé. En Pays d'Hinois, le festival Inventaire se penche sur la forêt qui cache l'arbre. Explication dans ce magazine. Le président Emmanuel Macron sur les terres de Gym.
L'événement est exceptionnel. Un président de la République sur le terrain agricole, ce n'est pas si fréquent, et encore moins dans les Alpes de Haute-Provence. Pour la plus grande foire agricole en plein air d'Europe, c'est le site de Corbière-en-Provence qui avait été choisi et ce fut un succès. Grâce au partenariat tissé depuis 2 ans et à l'organisation sans faille des jeunes agriculteurs des Alpes de Haute-Provence, la fête fut totale, même sous la pluie et malgré la boue, car l'eau est un bienfait pour la terre. La venue d'Emmanuel Macron a porté un coup de projecteur considérable sur le secteur agricole et accompagné du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, le président n'est pas venu les mains vides. Ses annonces étaient très attendues par les professionnels. L'une des plus importantes, un fonds assurance récolte porté à 600 millions d'euros annuels avec des dispositifs de paiement plus rapides. La nouvelle a été bien accueillie par les victimes du gel, des inondations ou de la sécheresse, des fléaux que le changement climatique va multiplier et accélérer. Autre sujet, le portage du foncier par les banques pour faciliter l'achat et le décalage plus tardif des remboursements sont un encouragement aux futurs exploitants. Des retraites planchées à 85% du SMIC avec un double avantage, aider les départs par des conditions financières acceptables et faciliter ainsi les transmissions d'exploitation. Revoir la loi Egalim pour assurer de meilleurs revenus des producteurs en face de la grande distribution. Pouvoir aussi tenir tête à l'Europe pour la PAC ou les attaques récentes sur la lavande. A noter également que le président, fervent lecteur et admirateur de Jean Giono, a poussé sa venue jusqu'à la maison de l'écrivain manosquin, une visite qui tenait du pèlerinage pour le chef de l'État vers l'auteur de Regain, entre autres chefs-d'œuvre, un roman attaché à la terre nourricière. Revenons aux terres de Gym, je vous propose d'écouter les réactions aux annonces du président Macron, Frédéric Esmiol, qui préside la Chambre d'agriculture 04, puis le maire de Corbière, également viticulteur, Jean-Claude Castel, mais d'abord le député et ancien ministre Christophe Castaner, qui est en première ligne sur le dossier de défense de la lavande.
Christophe Castaner, lavande et lavandin, quelle est la marge de manœuvre de la France ?
Elle est importante, mais il faut pour cela ne pas être désorganisé, il ne faut pas de récupération politique, il faut être armé. Et c'est ce que nous avons fait avec Julien de Normandie, je l'ai rencontré il y a quelques jours. Hier, nous avons rencontré ensemble l'ensemble de la profession et nous avons décidé de cheminer ensemble avec la profession, avec les 5 ministères qui sont concernés. On a mis en place un comité interministériel et on a choisi de confier le pilotage de ce comité interministériel de quelqu'un qu'on connaît bien dans ce département des Alpes-de-Provence, Patrice de Laurence, parce qu'il y a quelques années, il était à la tête d'un office national interprofessionnel sur les plantes à parfums. Il était à Volx, le siège de cet office. Et donc, la profession, et je le vois depuis hier et encore ce matin, est heureuse que ce soit lui qui pilote. Donc oui, je suis raisonnablement optimiste. Il faut garantir la meilleure information des consommateurs, c'est l'objectif de l'Europe. Il faut préserver ce patrimoine qu'est la lavande et nous allons atteindre cet objectif parce que nous cheminons tous ensemble. Ça va se faire en plusieurs mois. Ce sera traduit dans les faits à la fin de l'année prochaine. Et donc, il faut que nous soyons vigilants, armés, combatifs. Mais le soutien du gouvernement est essentiel. Il a été affirmé de façon claire et forte hier.
Vous êtes présent aux terres de Gym. Je suppose que vous êtes ravi de voir cette dynamique.
Oui, les terres de Gym, la culture de Neugia dans les Alpes-de-Provence, dans les Hautes-Alpes, très présent. Et puis cet événement, qui est un événement national, je suis ravi que le président de la République ait accepté de venir. Et puis surtout, il va parler agriculture, il va parler des enjeux agricoles, il va parler des sujets d'assurance. On sait les conséquences du gel cette année sur notre territoire, mais partout en France. Donc il faut avoir une ambition sur le régime assurantiel, et le président présentera tout à l'heure aux jeunes agriculteurs une belle ambition.
Frédéric Espignol, président de la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence, votre réaction suite aux annonces d'Emmanuel Macron ?
Bon, plusieurs annonces ont été faites. Je crois que la plus intéressante, et c'est celle qui était attendue, c'est par rapport donc à l'assurance récolte. Je crois qu'on est tous aujourd'hui devant l'évidence qu'il y a un changement climatique, que face aux différents aléas, hein, que ce soit le gel, la grêle, que ce soit même la chaleur, enfin, aujourd'hui il faut trouver des moyens, il faut que l'État accompagne donc l'agriculture française, hein, pour essayer de faire front à toute cette problématique-là. Le président de la République a annoncé donc une solidarité nationale en allouant une enveloppe de 600 millions d'euros donc par an, qui seront des fonds nationaux et européens, qui viendra abonder donc cette enveloppe. Donc c'est déjà quand même un peu positif, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on annonce un chiffre d'une telle ampleur, et déjà qu'on annonce un chiffre. On parle de simplification aussi, puisque l'idée c'est qu'aujourd'hui, plus qu'un interlocuteur aujourd'hui qui soit ciblé par agriculteur, et effectivement que ce soit la simplicité dans le montage du dossier. Et enfin, il va y avoir un pool au niveau des assureurs, pour qu'il y ait une certaine solidarité aussi entre eux. Parce que bon, c'est vrai que d'une assurance à l'autre, je vais dire aujourd'hui, il faut que peut-être qu'il y ait un peu plus d'échanges entre elles, ben justement pour abonder, pour être plus pragmatique. Maintenant, il demande aussi qu'on accompagne, que ce soit, je pense qu'il va y avoir des personnes fléchées, et alors je ne sais pas si la Chambre d'agriculture ça fera partie de ces personnes-là, mais d'accompagner justement les agriculteurs, ben pour les inciter à s'assurer, qu'à comprendre le système et les inciter à s'assurer. Moi, je crois que c'était vraiment une annonce attendue, et je pense une belle annonce, même si ça ne sera sûrement pas suffisant, mais c'est déjà bon point de départ.
Il a été question également des retraites agricoles.
Pas directement des retraites. Aujourd'hui, puisque c'était quand même, avant tout, c'est la journée des jeunes agriculteurs, hein, on parle beaucoup d'installation, mais c'est vrai que pour bien installer, il faut aussi bien transmettre, il faut préparer les successions des exploitants qui arrivent en fin de course. C'était le ministre de l'Agriculture, hein, Julien de Normandie, qui avait dit il y a quelques temps qu'aujourd'hui les retraites avaient été valorisées, ce qui donne un peu d'oxygène effectivement aux futurs sortants, pour mieux installer, et donc c'est un point important et positif.
Des sujets importants pour vos ressortissants, ici même dans les Alpes de Haute-Provence, le loup, la lavande n'ont pas été évoqués.
Alors, la lavande n'a pas été évoquée, bon, bien qu'on sait qu'il y a aujourd'hui Christophe Castaner, hein, qui vont accompagner donc un groupe de professionnels, hein, à Bruxelles pour défendre effectivement cette folle idée de rendre dangereux certains molécules donc, qui sont issues de la lavande. Bon, il n'y a pas eu d'annonce faite à ce sujet-là. Il a parlé du loup. Mais malheureusement, au niveau du loup, bon, c'est un constat. Ça fait 30 ans que le loup, en 2022, sera présent sur notre territoire, hein, les Alpes-Maritimes. Les Alpes de Haute-Provence sont les départements les plus touchés. Je n'oublierai pas non plus le 05. Il y a encore eu des attaques terribles ces derniers jours. Malheureusement, on sait que bon, les préfets ont peut-être un peu plus les coulées franches et un peu mieux prélevé du loup. J'ai eu un cas encore ce matin d'un éleveur, alors même qui est de notre département, mais qui a les troupeaux dans les alpages ou alpins, qui me disait qu'aujourd'hui on ne lui attribuait pas de tir de défense renforcé, mais parce qu'aujourd'hui, en gros, on a augmenté trop rapidement le nombre de loups prélevés et on a peur de dépasser le quota. On a un quota de 119 loups, et c'est en ce moment que les carnages ont lieu. Donc voilà, le loup, on doit vivre avec, mais il faut donner plus de moyens aux éleveurs de mieux se protéger. Il faut augmenter aujourd'hui les lieutenants de louveterie qui ont des moyens importants, doivent être mieux équipés avec des lunettes thermiques, puisqu'on veut le loup. De toute façon, ça a été dit. Aujourd'hui, on veut maintenir une certaine biodiversité. On doit vivre avec le loup. Mais alors, donnons les moyens nécessaires aux éleveurs pour qu'ils se protègent mieux et qu'ils dorment à peu près tranquilles et qu'ils n'aillent pas voir tous les matins s'il y a un carnage sur leur troupeau.
Jean-Claude Castel, vous êtes le maire de Corbières, également conseiller départemental. Ici même, dans votre commune, les Terres de Jim, c'est un événement.
En effet, c'est un événement de portée européenne. Donc vous imaginez bien que j'ai mené tout le lobbying nécessaire pour amener cet événement sur ma commune depuis 2 ans maintenant. Des communes où le maire est agriculteur, ça devient très rare. Donc on en a été une, on avait déjà un élément favorable à la chose. Et puis ensuite, on est dans un milieu qui est très plat, qui est très ouvert, qui est très accessible entre une route et une autoroute. Et donc, je n'ai pas eu de mal à faire basculer la décision pour Corbières en Provence.
Vos services, mais également les jeunes agriculteurs, se sont attelés à la tâche avec brio.
Je tiens à tirer mon chapeau au JA, qui, en étant simplement une poignée, parce que dans le 04, ils ne sont pas très nombreux comparativement à d'autres départements, depuis 2 ans porte à bout de bras cet événement. Bon, bien entendu, mes services municipaux, moi-même, mes élus proches, on a contribué, on les a aidés tant qu'on a pu. Moi, en tant qu'agriculteur, avec ma logistique d'agriculteur, mes engins, mes ci, mes là, on les a aidés aussi au maximum. Par exemple, pour le concours de labour, ce sont mes enrouleurs qui travaillent depuis une semaine pour arroser les terres, parce que c'est tellement sec qu'ils n'auraient pas pu le faire. Et puis surtout aussi, les services préfectoraux qui se sont investis, qui ont tenu à ce que cet événement ait lieu, qui ont été de bons conseils, qui ont travaillé de concert avec moi et les jeunes agriculteurs pour que cet événement soit une réussite. Et je pense que demain, on aura vraiment beaucoup de monde et ce sera une réussite, un rapprochement du monde rural et du monde citadin.
Vous êtes agriculteur vous-même, vous l'avez dit. Un président de la République, un ministre de l'agriculture sur votre territoire et qui fait des annonces, qu'est-ce que vous en pensez ?
On n'est pas dupes, hein. Le président est en campagne, c'est tout à fait normal. Qu'il ait une oreille attentive au monde agricole, qu'il ne lui est pas forcément acquis, c'est aussi normal. Et aujourd'hui, il est venu, il a pris le temps, il s'est adressé aux gens, il a parlé aux enfants des écoles, il a parlé aux JA, il a parlé au monde agricole en règle générale. Et comme vous le disiez, il a fait quelques annonces qui ne sont pas dénuées d'intérêt, notamment celle d'un nouveau système de protection de l'agriculture en termes d'assurance qui s'appelle sur plusieurs piliers, dont celui de l'État, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les événements climatiques exceptionnels sont de plus en plus fréquents et les agriculteurs subissent un coup la grêle, un coup le gel, un coup la sécheresse, un coup la tempête, un coup l'inondation, et qu'aujourd'hui, pour attirer des jeunes qui continuent dans notre métier, qui décident de s'installer, il faut leur apporter quelques garanties, celle du revenu et celle de l'assurance de ne pas se faire enterrer dès les deux ou trois premières années. Et les annonces du président sont allées dans ce sens, c'est plutôt une bonne chose.
En chantier, cuisiner ensemble et alimentation de qualité.
À Marseille, apporter son aide pour cuisiner ensemble, manger un repas à prix abordable et option végé, composé de produits vendus dans les shops toutes proches, c'est ce que propose l'association En Chantier. Dans le local au 36 rue Bernard, à la Belle de Mai, la cantine du Midi et la Drogueria sont des espaces d'accueil chaleureux autour de l'alimentation saine et locale. Les bénévoles s'activent dans la cuisine et l'épicerie, aidés par Sarah Toumi et Alexia Lorieux, deux salariés qui détaillent les projets de l'association En Chantier, au micro de Colline Juté.
Alors moi je suis Alexia, je travaille à la cantine du Midi. Ça va faire un an là, en septembre.
Salut.
Mon travail consiste principalement en l'accueil des bénévoles tous les midis, du lundi au vendredi. On cuisine ensemble. Moi j'ai un rôle de coordinatrice dans tout ce joyeux bazar, mais je suis pas du tout chef cuistot. L'idée c'est vraiment de penser et réaliser les recettes collectivement et de, en fonction de qui est là, demander aux personnes ce dont elles ont envie de cuisiner, ce qu'elles veulent nous partager, etc. Ensuite, il y a un temps d'accueil avec les personnes qui viennent manger, même si c'est de la vente à emporter. Il faut toujours expliquer le menu, encaisser, etc. Les espaces ici à En Chantier, c'est aussi un moyen de rencontrer du monde, de discuter, de créer du lien. En fait, l'alimentation, c'est le point culminant et qui rassemble les personnes qui viennent ici. Mais c'est aussi une porte d'entrée pour, en fait, évoquer de plein de choses dans le fond, quoi. Il y a des personnes qui me sont même un peu timides ou apeurées au début parce qu'elles disent « mais je sais pas cuisiner ». Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire savoir cuisiner, tu vois? Parce qu'a priori, tout le monde sait, j'en sais rien, couper une tomate.
C'est bien parce que par ailleurs, j'ai pas un feeling d'enfer pour faire la cuisine.
Ah, c'est vrai, ça.
Mais j'adore être là, éplucher des carottes avec tous les gens qui sont là.
Et qu'ils se sentent goûter le melon, savoir s'il est bon.
Allez.
Je m'appelle Sarah, je travaille à l'association En Chantier, plus particulièrement sur le projet Drogueria et le projet Café Causé. Le projet initial qui s'appelait La Cuisine était de faire un espace cuisine participative et de permettre à des personnes de venir cuisiner en même temps que d'offrir des repas à prix abordable, avec des produits de qualité, avec une attention portée à la qualité des menus, à l'équilibre des menus, créer des échanges avec la diversité culturelle des gens qui venaient cuisiner. En 2012, ça a été repris par une autre équipe et c'est devenu la cantine du Midi. Et fort du succès de ce projet-là, on s'est dit, mais pourquoi pas proposer à la vente les produits qu'on utilise, puisqu'il y avait tout un travail de recherche auprès de rencontrer des producteurs, etc., ou des fournisseurs qui ont la même éthique, la même attention que la cantine sur la qualité des produits, sur le côté équitable, le côté local, etc. Pourquoi pas le proposer aussi aux adhérents, aux habitants du quartier. Et ça a commencé par un petit marché hebdomadaire au sein de l'espace restaurant. Très vite, ils ont proposé d'impliquer les adhérents dans la gestion de ce marché-là, disant vous faites vous-même vos pesées, vous payez vous-même dans la caisse, etc. Et c'est à partir de là qu'est né ce principe participatif. Du coup, il y a eu une proposition, il y a eu une levée de fonds participatifs pour pouvoir aménager l'espace attenant à la cantine qui est devenue la Drogueria, qui est co-gérée par tout un réseau de bénévoles permanents. On est à une centaine, 150 bénévoles qui tournent sur le projet de l'épicerie. Il y a un troisième espace attenant à la cantine et à l'épicerie. Et de cet espace, on a eu l'idée de créer un café, une sorte de cafétéria qui puisse être un lieu d'accueil, d'échange, de rencontre. Et il y a eu un autre projet qu'on a imaginé en partenariat avec une association qui s'appelle Graines de Son, de faire une sorte de radio, de chronique radio.
On part sur combien de portions comme ça? 40 environ.
Se dire, bon, bah, on calcule les quantités, tant de grammes par personne, ça fait ça, et machin. Il y a justement la gestion du temps, la gestion des priorités. Et en fait, tout ça, c'est aussi hyper intéressant à travailler avec les bénévoles qui viennent ici. C'est aussi un apprentissage dans le milieu de la restauration, même si on n'est pas un restaurant traditionnel.
En entrée, une salade de pastèque, feta et menthe. Ensuite, c'est une recette de lima. Ce sont des galettes de pommes de terre farcies ou bien à la viande ou bien végétarienne.
Zrazé.
Le nom qu'elle m'a donné en russe. Et en dessert...
C'est un carrot cake.
Vaccination. Manosque ouvre son centre éphémère.
Il accueille le public sans rendez-vous tous les samedis matins jusqu'au 2 octobre. Le centre de vaccination éphémère de Manosque se trouve à deux pas du marché hebdomadaire. Situé salle Osco-Manosco en périphérie de la ville, le centre de vaccination fonctionne bien depuis plusieurs mois, mais l'éloignement de la structure est un frein pour certains habitants. D'où l'idée d'ouvrir un espace temporaire et commode, centre-ville, en mairie, avec toutes les garanties sanitaires, bien sûr, et le choix du samedi matin. Alain Demoulin est premier adjoint au maire de Manosque. Il est en charge des opérations de vaccination sur la cité de Géno. Alain Demoulin, vous êtes premier adjoint à la ville de Manosque. Pourquoi ce centre de vaccination éphémère dans la mairie?
Déplacer le centre simplement parce qu'on s'est rendu compte que le samedi, si on ouvrait le grand centre, on avait peu de monde qui allait au Manosco, c'est pas central, les gens venaient pas. Donc on a discuté, on s'est dit, ben pourquoi pas, sur le marché, les gens qui font leur marché viennent à la piqûre, ils perdent un petit quart d'heure le temps de faire la piqûre, et ils rentrent, donc première dose, deuxième dose, troisième dose, puisque ce matin on a commencé avec des troisième doses, le plus proche des gens, et puis le plus simple, c'est-à-dire pas de voiture, les gens ils font leur course et on les pique.
Avec également une équipe qui est là pour les accueillir et pour leur fournir toutes les conditions sanitaires nécessaires.
Avec une équipe restreinte, avec un médecin, une infirmière, la responsable du centre, donc Karine Fratello, et puis une bénévole qui faisait des inscriptions ce matin. Une petite antenne, mais qui suffisait ce matin pour travailler.
Qui a eu cette idée d'installer ce centre éphémère?
Alors, on ne va pas dire qu'on a eu l'idée, mais on est tellement poussé par l'ARS et la préfecture pour essayer d'aller vacciner à droite, à gauche, dans les collèges, dans les lycées. On s'est dit, allez, on va sur le marché, on vaccine sur le marché, parce qu'à une époque, on a testé sur le marché, et qu'aujourd'hui, tester... Pour nous, c'est pas la solution. Vacciner, c'était la solution.
Alors, comment ça se passe? Il va y avoir plusieurs samedis où on peut aller à l'intérieur de la mairie. C'est juste au rez-de-chaussée et c'est plus facile d'accès.
Eh bien, ça sera 4 samedis à compter de celui-là. Donc, celui-là vient de se finir. Et donc, pendant 3 samedis encore, vous êtes accueillis entre 9h et midi par l'infirmière, le médecin et puis nos bénévoles. Sans rendez-vous, vous venez, on voit si vous êtes en première, deuxième ou troisième vaccination. On s'occupe de vous, vous repartez, vous continuez. Vous allez boire votre café en face ou vous allez acheter vos tomates.
Sinon, Alain de Moulin, c'est vous qui êtes en charge de toutes ces opérations de vaccination sur Manos. Comment est-ce que ça a fonctionné jusqu'à présent?
Alors, on avait un très gros centre, hein, on a un gros centre en bas, hein, puisqu'on fait à peu près 1200-1500 vaccinations en semaine. On est monté à même à 2500. Aujourd'hui, c'est une grosse. Aujourd'hui, on a une diminution par rapport aux adultes. Par contre, on voit beaucoup d'enfants. Mercredi, par exemple, on a fait 300 enfants de 12 à 15 ans. Donc, tout doucement, les gens se disent que, de toute façon, on va être obligé. Alors, je vais pas rentrer dans les polémiques. Mais tout doucement, si on veut pratiquer, si on veut aller au commerce, si on veut aller au cinéma, si on veut vivre, pendant un an on n'a pas pu vivre, si on veut vivre, on va se vacciner.
On rappelle l'essentiel également, c'est que c'est une protection contre la Covid, même si on peut quand même l'avoir, les conditions et les conséquences seront moins graves.
On va prendre un exemple tout frère. Monsieur le président de la région était vacciné et a fait le Covid. Il a passé 3 jours dans son lit. Et aujourd'hui, il va être en pleine forme et il n'a pas été à l'hôpital. Il va bien. Donc, on ne dit pas que la vaccination va ne pas avoir être malade. On va être malade, mais on n'en mourra pas. On remplira pas les hôpitaux. Par contre, c'est aussi le respect des autres, les uns, les autres, de se respecter la liberté de chacun.
Rendez-vous le samedi matin sur Manosque au centre de vaccination éphémère.
Oui, exactement, 9h midi, dans le local du rez-de-chaussée de la mairie, à côté de l'administration secrétariat, et vous serez les bienvenus, et l'avantage que vous aurez, c'est qu'en plus, en face, vous avez un café pour boire le café après.
La photo d'aujourd'hui pour les journées du patrimoine de Malfougas.
L'idée est originale car le patrimoine c'est aussi être actuel, voire futuriste. Samedi 18 et dimanche 19 septembre, au programme de ce petit village des Alpes de Haute-Provence, en plus des visites guidées des principaux monuments, une nouveauté cette année avec l'exposition Photos et portraits des habitants de Malfougas. Ce village, qui a plus de 1000 ans d'existence, dispose de nombreuses photos des anciens de Malfougas. Elles sont régulièrement exhumées et expliquées aux habitants. Le président de l'association Au pied du mur répond aux questions de Chris Alessandri. Patrick Claude.
Oui, encore une séance de journée du patrimoine pour l'année à venir. Et cette année, on a choisi une approche complètement différente des autres années. Bien entendu, il y aura l'exposition de choses anciennes, de l'allumage du four du village, de visites du village aussi de Malfougas. Mais cette nouvelle approche, c'est d'avoir photographié en mai-juin tous les habitants de Malfougas qui le désiraient. Donc on en est arrivé à environ 70%. C'est énorme pour un petit village, 70%. Donc tous ces portraits ont été tirés sur papier et vont être exposés dans notre nouvelle salle Jean-François Ayot à Malfougas. Et ensuite, un jury indépendant du village, pour pas qu'il y ait de confusion, a sélectionné quelques photos, ou les plus belles, ou ceux qui les touchaient le plus. Et ces photos ont été tirées sur des grandes bâches et seront exposées dans le village à cette occasion.
Ces photos, alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Parce que là, il y a tout un patrimoine sentimental également qui est derrière tout ça.
Ah oui, on y trouve des photos de famille, mais on y trouve des familles aussi qui posent avec les animaux, avec des poules, avec des chiens. C'est assez varié et original. Les gens qu'on va exposer, c'est des gens de l'an 2021. Toutes les personnes qui vont être exposées, mais surtout le but, comme l'association travaille sur le patrimoine, ces photos ensuite seront regroupées, numérisées, et l'ensemble sera remis à Digne aux archives départementales, pour que dans 50 ou 100 ans, si quelqu'un veut faire une recherche sur le village, il aura un arrêt sur image de cette époque.
Vous travaillez sur le futur.
Oui, on fait de l'histoire sur le futur.
En même temps, c'est vous qui savez ressasser le passé aussi avec ces photos que vous faites émerger et vous retrouvez l'historique des personnes qui sont sur ces photos.
Oui, en même temps, on a eu une idée dans l'association, c'est à partir d'une photo, nous avons beaucoup de photos d'anciens, de faire parler cette photo, d'essayer de trouver quel est le protagoniste ou les protagonistes de cette image, mais aussi de voir ce qui passait dans le village ou alentour à l'époque de la prise de la photo.
Par exemple, allez, pour le plaisir, petite anecdote, petite photo sur laquelle vous avez ressenti quelque chose.
Oui, on a trouvé une photo de quelqu'un qui était sur une charrette avec deux autres personnes. Donc aucun commentaire, aucune histoire, rien. On a commencé à parler avec les anciens du village, savoir qui c'était. Et puis on a appris que cette photo avait été prise à la fin des années 40. Et c'était le maire de notre époque qu'on avait été chercher avec une charrette au train, en bas dans la vallée, et que quelqu'un du village remontait avec son épouse.
Puis l'arrivée de la première voiture aussi à Malfougas, c'est un événement.
Oui, oui, là aussi, seconde photo illustrée, c'est l'arrivée d'une voiture Talbot dans les années 30 et toute la famille se met autour avec des interrogations dans le visage de chacun. Pourquoi cette dépense ? Pense la grand-mère, celui qui achète la voiture est fier, et il y a même l'ouvrier qui vient poser derrière, sur le siège arrière de cette photo.
Le conducteur en costume, hein, la prestation, elle est de rigueur.
Ah oui, la prestation est de rigueur. D'ailleurs, ils se sont tous endimanchés pour être sur cette photo.
Patrick Claude, pour revenir donc aux journées du patrimoine, chronologiquement, pour parler un peu de cet événement.
Toute la journée sur Malfougas, il y aura visite guidée du village, un marché éphémère dans l'après-midi. Bien entendu, comme chaque année, on va allumer notre four médiéval et faire cuire du pain et autres fougas qu'on vendra aux gens de passage et aux gens du village. Ensuite, il y aura possibilité d'avoir une petite restauration sur place et surtout, le matin, samedi matin, 10h, une visite guidée gratuite du village avec beaucoup de belles surprises.
Visite guidée, sans dévoiler les surprises, hein, quand même, c'est tout un itinéraire. Comment ça se déroule ? Parce qu'il y a le guide qui est là et puis il y a des endroits avec également tous ces instants vécus sur ces passages.
Oui, donc toujours des belles surprises. Exemple, les gens du village nous ouvrent leur cour intérieure. Donc ça permet de découvrir des choses qui sont inaccessibles 364 jours par an. Et à ce moment-là, on expose dans ces cours, qui sont vraiment, vraiment magnifiques, des artistes locaux ou des artisans, des choses comme ça.
Vous qui êtes à l'origine de cet événement, de ces journées, de toute cette action qui est menée, quel bilan vous faites là, à l'heure actuelle, 2021 ? Parce qu'il y a un petit moment que vous drivez tout ça. Quelle impression vous ressentez ?
Ah, une belle impression. On a passé des moments difficiles avec le Covid. Et puis là, c'est vraiment le renouveau. Et cette expo photo est un beau projet pour l'avenir. Donc, on espère vous retrouver le samedi 18 septembre à Malfougas, où vous trouverez beaucoup d'animations, de choses intéressantes à voir, et un téléphone si vous avez des questions, 07 50 40 87 90, et à bientôt à Malfougas. Merci.
L'arbre et la forêt au menu du festival Inventaire.
La forêt qui cache l'arbre, c'est le thème de la 8e édition d'Inventaire du 28 septembre au 3 octobre 2021 à Digne-les-Bains, mais aussi dans plusieurs communes du département. Coordinateur du festival et responsable du service environnement de Provence-Alpes Agglomération, Nicolas Morel donne les temps forts de l'opération. Nous entendrons également Raphaël Colombo, spécialiste des chauves-souris, qui reviendra sur le week-end où une soixantaine de chercheurs naturalistes ont parcouru le territoire. Ils ont pu réaliser l'inventaire des massifs forestiers remarquables de Provence-Alpes Agglomération en partenariat avec le Conservatoire d'Espaces Naturels PACA, l'Office National des Forêts et le Parc Naturel Régional du Verdon. Le public pourra profiter de la restitution des résultats de ces travaux lors de l'ouverture du festival Inventaire le 28 septembre. Reportage Odile Frison.
Nicolas Morel, la 8e édition du Festival Inventaire approche du 28 septembre au 3 octobre avec encore un programme riche et varié.
Oui, cette année pour cette 8e édition, alors qui vous le savez a été reportée puisqu'elle devait avoir lieu initialement l'an dernier, en octobre 2020, on a pu effectivement proposer encore davantage de diversité pour ce Festival de la biodiversité à tous les niveaux puisqu'on aura quand même une dizaine de conférences, une douzaine de sorties découvertes, 4 expositions, 5 projections filmiques, des ateliers, un jeu de piste même sur la ville de Digne-les-Bains, et puis la participation de 6 communes cette année sur le festival sur le territoire de Provence-Alpes Agglomération, donc Digne-les-Bains, Château-Arnoux-Saint-Auban, Volonne, Thouars, Barles. On a également la commune de Seigne aussi pour la première fois, donc on voit qu'il y a vraiment une participation à l'échelle du territoire sur une proposition autour de la forêt qui cache l'arbre, qui nous indique que cet élément fort de notre paysage sur Provence-Alpes Agglomération revêt de multiples facettes et de multiples enjeux. La forêt aura de plus en plus d'importance dans l'avenir, dans nos vies, à tous les niveaux, que ce soit économique, social, mais aussi bien entendu la forêt dans laquelle on a plaisir à se retrouver pour sa biodiversité et l'espace ressource qu'elle constitue en termes de qualité de vie.
La forêt, c'est aussi nos poumons et on en a besoin.
On en a besoin, on en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup encore actuellement avec le changement climatique. Elle a un rôle essentiel dans le stockage du carbone sur notre territoire. On a plus de 53% de notre territoire qui est de Provence-Alpes Agglomération qui est couvert par la forêt. Donc une capacité de stockage du carbone qui est très importante, qui donc contribue à la qualité de l'air. Mais aussi, cette forêt, elle a un rôle majeur au niveau de l'eau, de la qualité de l'eau. Elle joue le rôle de filtre. Donc, qualité de l'eau, qualité des sols, qualité de l'air. C'est un milieu, c'est le seul milieu terrestre qui allie ces trois facultés, donc d'amélioration de la qualité de l'eau, de l'air et de la terre. Et on parlera de tout ça, bien entendu, autour d'une table ronde le 1er octobre à Seine, avec tous les acteurs de la forêt pour parler de cette forêt et de son avenir, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui à travers son exploitation, mais aussi à travers le changement climatique.
Alors, il y a aussi des invités prestigieux, Rob Hopkins par exemple.
Oui, Rob Hopkins, qui est, vous le savez, l'initiateur des villes en transition. C'est un mouvement mondial qui est apparu en 2005 en Angleterre et qui prône aujourd'hui de nouveaux modes de consommation, notamment une nouvelle approche environnementale, de nouveaux rapports avec la nature. Et Rob Hopkins, on a la chance de l'avoir, nous l'aurons le 28 septembre en ouverture du festival, sur l'esplanade de Gaulle, en plein air, pour un forum et une discussion avec le public. Et puis le soir, en ouverture, au Centre culturel René Char, à l'occasion de la projection du film Dans les bois, où Rob Hopkins là, échangera avec le public sur les questions de forêt et de biodiversité. Oui, Rob Hopkins est anglais, donc nous aurons une interprète pour une traduction simultanée donc, de ses propos.
Il y aura aussi une romancière, Claudie Hunzinger.
Oui, alors Claudie Hunzinger, qui s'est fait connaître en 2019, puisqu'elle a été lauréate du prix décembre 2019, qui est un prix littéraire. Elle a écrit un ouvrage remarquable sur sa rencontre avec les grands cerfs, les cerfs que l'on trouve dans la forêt des Vosges, où elle habite. Et elle nous fera part de son expérience, de son vécu, et de l'histoire de ce roman, pour laquelle elle a été primée, à travers deux moments, deux temps forts. Le premier, ça sera le jeudi 30 septembre à 18h30 au Centre culturel René Char, à Digne-les-Bains. Et puis, le lendemain matin, toujours à Digne-les-Bains, sur un petit déjeuner littéraire, où, de manière plus intime, elle discutera avec ses lecteurs.
Tout est gratuit, hormis les films.
Voilà, tous les rendez-vous de cette 8e édition sur un accès libre, gratuit, à l'exception des projections filmiques, puisqu'on a voulu être solidaire de nos partenaires, que sont les rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains et le cinématographe à Château-Arnoux, après les mois difficiles qu'ils ont vécu. Donc, ce sera un tarif réduit, un maximum 5 euros sur l'accès aux projections filmiques.
On retrouve tout le détail du programme sur un site.
Tout à fait, sur le site www.festival-inventaire.com, sur le site également de Provence Alpes Agglomération et notre compte Facebook Provence Alpes Agglomération.
Raphaël Colombo, vous êtes naturaliste mais aussi coordinateur du festival.
Oui, coordinateur du festival Inventaire, c'est-à-dire du week-end naturaliste qui s'est déroulé au mois de juin et qui a réuni plus de 70 naturalistes venus de toute la France. Essentiellement de la région, mais aussi d'autres horizons, et avec des compétences aussi diverses que variées sur la flore, la faune, les champignons, les mousses, les lichens, les insectes, les chauves-souris, les oiseaux, les papillons de nuit, etc. Voilà. Et donc tous ces naturalistes se sont retrouvés l'espace d'un week-end pour inventorier la biodiversité sur l'ensemble des massifs qui avaient été choisis sur le territoire de P2A.
Et donc il y aura une retransmission au cours du festival, le jour de l'inauguration de ces recherches de biodiversité.
C'est ça, donc je ferai une petite présentation d'une heure sur les résultats de cet inventaire naturaliste pour présenter un peu la biodiversité qui a pu être inventoriée. Alors la biodiversité ordinaire, mais aussi la biodiversité remarquable, puisqu'on a la chance sur notre territoire d'avoir de nombreuses espèces emblématiques, des forêts, mais aussi de la biodiversité préservée et emblématique de notre territoire. Au travers de ces espèces, de vous présenter un peu les habitats et les milieux richissimes qui sont présents sur le territoire.
Parce que faire un inventaire de la biodiversité, effectivement, ça devrait se faire tout au long de l'année, en fonction des saisons.
Alors oui, c'est sûr que cet inventaire, il n'est représentatif que du moment où on était présent. La biodiversité, elle est présente tout au long de l'année et elle n'est détectable qu'à certaines périodes de l'année, en tout cas pour certaines espèces. Donc il est partiel, cet inventaire, mais il est néanmoins beaucoup plus objectif que ce qui était présent, ou en tout cas connu auparavant, puisqu'on n'avait que quelques espèces connues sur la plupart des massifs qu'on a pu inventorier. Et donc on a grandement amélioré la connaissance sur ces massifs-là. L'intérêt d'améliorer cette connaissance, elle est multiple, hein, elle est multiple et variée. Hein. Ça permet à la fois de mieux la prendre en compte, l'échange qui a pu se faire notamment avec les agents du parc ou les agents de l'ONF lors de ces inventaires a été très important, hein, puisque à la fois en termes de gestion pour un parc naturel ou pour l'Office national des forêts, la présence de certaines espèces permet d'ajuster la gestion ou de faire certaines choses, ou de préserver certaines choses ou de ne pas faire certaines choses. Donc c'est essentiel et crucial pour eux de connaître la biodiversité et donc de connaître aussi les habitats qui sont liés à cette biodiversité. Mais c'était aussi un vrai temps d'échange entre naturalistes et puis un vrai temps d'échange avec les habitants du territoire parce que ça a permis de parler de la biodiversité aux randonneurs, aux vététistes, aux personnes qui étaient présentes, aux habitants tout simplement des lieux qu'on a pu inventorier.
Vous allez aussi faire une conférence sur les chauves-souris, c'est ça ?
Alors oui, alors moi, mon domaine de prédilection, c'est les chauves-souris, on appelle les chiroptères. Et donc, je ferai une sortie de découverte pour les grands, les petits, les noctambules, les insomniaques, sur les chauves-souris, sur ces petites bêtes qui sont merveilleuses et qui, en même temps, fascinent et parlent à l'imaginaire des enfants comme des grands. Voilà.
Est-ce que ça a un lien avec la forêt ? Les chauves-souris, elles vivent en forêt ?
Alors effectivement, la plupart des espèces de chauves-souris vivent en forêt. Pourquoi ? Parce qu'elles chassent des insectes et la biodiversité entomologique des forêts est riche et cruciale. Et puis, voilà, historiquement, la plupart des territoires étaient couverts de forêts. Donc oui, les chauves-souris sont intimement liées aux forêts. Et donc, la relation entre forêt et chauves-souris est fondamentale et évidente.
C'est la fin de ce magazine. Merci François et à la semaine prochaine.
Merci Colline pour la régie. À bientôt.